Il est 20h30 à Paris, 18h30 en temps universel, c'est l'heure d'Afrique Soir. Avec Sophie Pouzrade, bonsoir Sophie.
Bonsoir Diane, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, une rencontre attendue en RDC entre la chef de la MONUSCO, la mission de l'ONU pour le pays qui est arrivée à Goma, et les représentants du mouvement AFCM23 qui contrôle toujours la ville et sa région. Pascaline Bongo, de nouveau dans le viseur de la justice française, la sœur de l'ancien président gabonais, est mise en examen pour blanchiment d'argent public étranger. À la une également, une nouvelle enquête journalistique plonge dans les prisons du groupe paramilitaire russe Wagner au Mali, c'est notre dossier du soir. Au programme également, un reportage sur le rôle de la mère comme objet de croyance au Sénégal. Et bien sûr, on retrouvera Hervé Mandina dans l'Afro Club pour notre chronique musicale. Vous avez le programme, bienvenue dans Afrique Soir. On démarre cette édition en RDC, à Goma plus précisément, puisque c'est là que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est arrivée ce jeudi. Une arrivée presque 5 mois après que la ville est tombée entre les mains de l'AFCM23 appuyée par l'armée rwandaise. Pendant ses 3 jours de travail sur place, elle va notamment s'entretenir avec les représentants de l'AFCM23 pour mieux comprendre la situation et l'impact du conflit sur la population. Alors pourquoi cette rencontre entre Bintou Keïta et Corneille Nangaa, coordinateur de l'AFCM23, est-elle particulièrement attendue? Élément de réponse avec Patient Legaudy.
Cette visite intervient au lendemain de la publication du rapport mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH. Un rapport accablant pour l'AFCM23. Comme le mois précédent, la majorité des violations et atteintes aux droits humains enregistrées en avril sont attribuées aux groupes armés. Et en tête, l'AFCM23, appuyé par l'armée rwandaise, dit le rapport. Viennent ensuite les groupes Wazalendo, favorables au gouvernement. Il faut aussi dire que les relations entre la MONUSCO et l'AFCM23 n'ont jamais été simples. Certains cadres du mouvement politico-armé continuent de considérer la MONUSCO comme une force belligérante vaincue au même titre que l'armée congolaise. Il y a 2 mois, Bintou Keïta dénonçait devant le Conseil de sécurité les restrictions imposées à la mission dans les zones contrôlées par l'AFCM23. Des restrictions comme les barrages routiers ou l'exigence d'un préavis de 48 heures pour les convois, disent les sources onusiennes. Mais malgré ce contexte tendu, le dialogue n'a pas été rompu. Ces dernières semaines, certaines restrictions ont été levées à Goma. La mission a pu réapprovisionner ses bases avec l'appui de ses propres escortes militaires. Cette visite est jugée importante aussi parce qu'elle intervient 2 semaines avant le prochain briefing de Bintou Keïta devant le Conseil de sécurité, prévu le 27 juin, un briefing consacré à la situation en RDC.
Patient Legaudy. Les résultats provisoires des législatives au Burundi, très contestés du 5 juin dernier, continuent de provoquer un tollé. Dans ce scrutin, le parti SNDD-FDD, qui règne d'une main de fer sur le pays depuis 20 ans, a raflé tous les 100 sièges de députés en jeu, selon les résultats provisoires rendus publics hier par la CENI. Il a également remporté presque tous les sièges de conseillers communaux, à quelques exceptions près, qui leur étaient couplés. Alors face à ces résultats, les petits partis d'opposition qui ont participé au scrutin ne décolèrent pas et parlent de vol du siècle. De son côté, le parti au pouvoir, lui, observe et se tait. Esdras Ndikoumana.
Aucun responsable du CNDD-FDD n'a voulu s'exprimer jusqu'ici sur leur victoire écrasante au double scrutin de jeudi dernier. Seuls quelques militants ont tenté de légitimer sur X la razzia électorale du parti au pouvoir en invoquant les foules immenses que leurs meetings de campagne électorale ont souvent drainé. Cela préfigurait une victoire éclatante, assure l'un d'eux. Ce n'est pas le cas de l'opposition qui est vent debout contre ce qu'il qualifie de mascarade électorale. Exclusion de la course électorale du principal opposant burundais Agathon Rwasa, des mandataires chassés des bureaux de vote ou emprisonnés, des électeurs forcés publiquement de voter pour le parti au pouvoir ou encore le bourrage d'urnes, c'est du jamais vu par l'ampleur des irrégularités observées, clame la coalition Burundi Bravo, c'est un Burundi pour tous en français. Le CNL rejette les résultats annoncés par une CENI dont les membres des bureaux de vote ont participé à cette tricherie selon ce parti. Le CDP parle de son côté de hold-up du siècle commis au vu et au su de tout le monde. Mais cette polémique ne transparaît pratiquement pas dans la très grande majorité des médias burundais qui n'osent pas aborder un sujet aussi sensible. On peut se faire tuer pour moins que ça, explique un journaliste qui se dit résigné face à un pouvoir qui règne par la terreur, comme la plupart des Burundais.
Esdras Ndikoumana. Et au niveau international, l'ONG Human Rights Watch dénonce ce jeudi le harcèlement et le menace des électeurs par des responsables et des proches du parti au pouvoir. Dans l'actualité également, Pascaline Bongo de nouveau aux prises avec la justice. Une nouvelle procédure judiciaire en France concerne la fille aînée du défunt président gabonais Omar Bongo et sœur de l'ex-président Ali Bongo. Elle fait l'objet d'une nouvelle enquête du parquet national financier différente de celle dite des biens mal acquis. Pascaline Bongo a été mise en examen dès le mois de janvier, même si on ne l'apprend que ce mois-ci, pour blanchiment de corruption d'argent public étranger. Amélie Tulé.
Les faits remontent, selon les enquêteurs, aux années 2000, à l'époque où Pascaline Bongo était directrice de cabinet de son père, feu le président Omar Bongo. Les investigations portent sur des transferts de fonds et sur une société basée à Hong Kong, en Asie. Elles concernent également l'avocat français Jean-François Meyer, l'ancien conseil du défunt chef de l'État gabonais et lui aussi mise en examen dans ce dossier. Dossier sur lequel on sait encore peu de choses, décorrélé de l'affaire dite des biens mal acquis. Dossier lacunaire selon l'avocate de Pascaline Bongo. Maître Corinne Dreyfus-Schmidt déplore un acharnement juridique. À partir du moment où on voit le nom de Bongo, dit-elle, on voit rouge. Elle a saisi la chambre de l'instruction pour contester la mise en examen de sa cliente âgée de 68 ans. Pour elle, il n'y a pas d'indice grave ou concordant pour justifier cette mise en examen. Elle espère obtenir gain de cause, comme en 2024, quand Pascaline Bongo a été relaxée par le tribunal correctionnel de Paris au terme d'un procès pour corruption passive d'agents publics étrangers, une relaxe dont le parquet national financier français a fait appel.
Les précisions d'Amélie Tulé. Le mouvement Take It Back renonce finalement à manifester au Nigeria en cette journée de la démocratie. Un gros déploiement des forces de sécurité à Lagos et à Abuja notamment a dissuadé les membres et les sympathisants de ce mouvement de se rassembler. On le rappelle, le mouvement Take It Back dénonce depuis plusieurs mois les problèmes économiques et de sécurité auxquels font face des dizaines de millions de Nigérians. Mais les leaders de cette fronde ont une nouvelle fois été mis en échec. Les explications à Abuja de notre correspondant Moïse Gomis.
Des véhicules siglés postés sur des points stratégiques, des hommes et des femmes en uniforme mais aussi en civil. Comme en octobre dernier, le mouvement Take It Back a donc une nouvelle fois reculé devant le déploiement des forces de sécurité partout des manifestations contre la vie chère et l'insécurité étaient programmées. Essentiellement dans le sud-ouest du Nigeria, à Lagos, Ondo, Oyo, mais aussi à Abuja, quelques poignées de personnes téméraires ont scandé leurs revendications en cette journée de la démocratie. Le président Bola Ahmed Tinubu n'a eu d'ailleurs aucune peine à ignorer des slogans peu audibles à cause des cortèges clairsemés. Il a décalé son discours à la nation pour le prononcer en début d'après-midi devant la session conjointe du Sénat et de la Chambre des représentants. Et après avoir défendu sa vision de la démocratie et ses réformes libérales, le président Tinubu a nommé parmi les nouveaux commandeurs de l'ordre du Niger le prix Nobel Wole Soyinka et à titre posthume l'écrivain et écologiste Ken Saro Wiwa, pendu en 1995 avec ses 8 compagnons ogonis par le régime du dictateur feu Sani Abacha. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
Plus à l'ouest sur la carte, la contestation aussi au Togo où deux grands partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile ont demandé la démission du dirigeant Faure Gnassingbé. Ils appellent à un mouvement de désobéissance une semaine après des manifestations de jeunes contre le pouvoir. Au Mali à présent, un projet de loi adopté hier en Conseil des ministres prévoit d'accorder un mandat présidentiel sans limite de temps au général Assimi Goïta. Déjà président de transition, il restera à la tête de l'État pendant au moins 5 années supplémentaires, un mandat renouvelable sans élection jusqu'à la pacification totale du Mali et des autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Le projet de loi doit encore être voté, mais le processus déjà annoncé est désormais enclenché. David Bachet.
Le projet de loi doit encore être voté par le Conseil national de transition, acquis au régime en place. Sa justification officielle est quelque peu tortueuse. Malgré l'adoption d'une nouvelle constitution, qui avait nécessité l'organisation d'un scrutin en juin 2023, et malgré le contrôle de l'ensemble du territoire par les forces armées, le Mali et les autres pays de l'AES sont toujours confrontés à la menace de la déstabilisation internationale. En résumé, la transition avait déjà organisé un vote il y a 2 ans, la situation sécuritaire se serait encore améliorée depuis, mais des élections sont impossibles. La France n'est pas citée, mais la menace de déstabilisation internationale fait écho aux innombrables accusations déjà portées contre Paris. Le plan était connu, il faisait partie fin avril des recommandations issues des concertations des forces vives orchestrées par les autorités de transition. Après la dissolution des partis politiques maliens, le maintien des militaires au pouvoir est donc enclenché. Les premières réactions sont à l'image du Mali actuel, radicalement polarisé. Les soutiens du régime en place exultent, saluant la construction d'un État digne, souverain et durable. Les opposants déplorent que le Mali sombre encore davantage dans la dictature et dénoncent un braquage politique maquillé en texte de loi.
David Bachet, et on reste au Mali pour le dossier du soir avec une nouvelle enquête du consortium de presse Forbidden Stories, histoire interdite en français, qui poursuit le travail de journalistes assassinés. En l'occurrence, celui d'une journaliste ukrainienne, Victoria Roshina, morte en prison alors qu'elle enquêtait sur les détentions illégales de civils dans les territoires occupés par la Russie. Et le travail du consortium a mené les journalistes et d'autres médias partenaires très loin de la Russie et de l'Ukraine, au Mali, où le groupe paramilitaire russe Wagner a exporté ses méthodes d'enfermement et de torture. Pour en parler, Guillaume Venetité, journaliste à Forbidden Stories, était l'invité de Nicolas Sûr dans Afrique Midi.
Au cours de leurs opérations, l'armée malienne et les mercenaires de Wagner se déplacent à travers le pays, dans le nord et dans le centre notamment, pour combattre les groupes djihadistes et ont donc ces prisons secrètes dans lesquelles ils détiennent des centaines de civils au total.
Qui sont les civils arrêtés? Qu'est-ce qu'on leur reproche?
Souvent, les forces maliennes et les forces russes assimilent en fait les personnes qui vivent sur ces territoires à des djihadistes juste parce qu'ils vivent à côté d'eux. Et ce sont souvent des bergers, des commerçants qui sont ciblés. Et parfois, justement, le groupe Wagner en profite pour piller à la fois ces commerçants ou le bétail de ces éleveurs nomades.
Ils sont majoritairement peuls ou touareg et ils ont le tort d'être au mauvais endroit, au mauvais moment en quelque sorte.
Oui, voilà, vous avez souvent des patrouilles en fait, c'est-à-dire que Wagner et l'armée malienne partent souvent en opération justement pour débusquer des terroristes ou alors interroger des villageois pour avoir des informations. On a l'exemple près de Nampala en fait où l'armée malienne a rassemblé avec Wagner des centaines de villageois pour essayer de trouver justement quelqu'un qui supposément communiquait avec les djihadistes du groupe de soutien de l'islam et des musulmans, le JNIM, qui est affilié à Al-Qaïda. Et parfois, plusieurs civils sont embarqués durant ces opérations de manière totalement arbitraire. Et certains, justement, finissent dans ces camps et dans ces prisons où ils sont interrogés et torturés.
Vous avez recueilli des témoignages de prisonniers qui ont pu en sortir et qui sont aujourd'hui réfugiés en dehors du Mali pour la plupart. Leurs récits ont beaucoup de points communs. Que racontent-ils sur la détention?
Alors la détention, souvent elle démarre justement par cette arrestation totalement arbitraire, très soudaine, qui peut être dans leur village, dans leur commerce, ou justement un déplacement s'ils sont des bergers. Et ensuite, quand ils arrivent en détention, il y a souvent les premiers interrogatoires qui sont très violents, avec des coups, souvent de la torture, des simulacres de noyade par exemple. Et on leur demande, est-ce que vous connaissez des djihadistes? Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur cette personne? Et souvent les civils qui n'ont rien à voir avec ça, justement, n'ont pas d'informations. Et on continue à les frapper ou à les détenir pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, pour essayer de leur soutirer des informations. Et aussi, en fait, ces disparitions, ces enlèvements, parce que les familles qui sont justement en dehors, qui attendent des nouvelles de leurs proches, en fait, ça crée un climat de terreur, puisqu'on se dit, en fait, si on ne coopère pas avec l'armée malienne et les Wagner, il nous arrivera le même sort. Personne ne saura ce qu'on est devenu. Ça crée un climat de peur, de terreur, sur lequel Wagner et les FAMA jouent beaucoup.
Alors, Wagner opère avec l'armée malienne. Quel est le rôle des FAMA dans ces détentions? Vous dites, je crois, Wagner fait ce qu'il veut.
Voilà, c'est un officier malien sous couvert d'anonymat qui nous l'a raconté. En fait, les FAMA, souvent, dans les camps, ne sont pas du tout dans la même partie que les Wagner investissent. Par exemple, sur la base de Nampala, on a eu plusieurs témoignages qu'on a pu recouper, sur lesquels on nous dit en fait que Wagner opère dans un bâtiment tout seul, à ces pièces dans lesquelles ils détiennent des personnes, des toilettes dans lesquelles ils ont enfermé des personnes qu'ils avaient frappées. Les Maliens sont de l'autre côté du camp, ils n'ont pas accès à cette partie-là. Et quand justement notre témoin a été libéré, un de nos témoins a été libéré, et lui il a été conduit justement jusqu'au FAMA, qui eux ensuite l'ont ramené au village.
Guillaume Venetite, Wagner va être remplacé par Africa Corps, une structure directement pilotée par le ministère russe de la Défense. Est-ce qu'on s'attend à ce que ça change quelque chose aux pratiques atroces que vous avez observées dans ces centres de détention clandestins du Mali ?
Pour l'instant, c'est un peu le flou. Ce qu'on sait, c'est qu'une grande partie, en tout cas, des anciens mercenaires de Wagner ont été recrutés dans les structures d'Africa Corps. Il faudra voir justement comment se comportent les anciens mercenaires de Wagner, mais ils ont un passif assez lourd d'exactions, de torture et d'enfermement arbitraire.
Un entretien à retrouver sur notre site internet rfi.fr et sur nos applications. Du sport, à présent, cyclisme, la 8e étape du Tour du Cameroun qui s'est courue aujourd'hui entre Douala et Kribi sur une distance de 160 km. Et c'est l'Allemand Yann Munzer qui l'a remporté. Deux Burkinabés, Saturnin Yameogo et Mukaila Rawende occupent la 4e et 5e place au classement général à 58 secondes du maillot jaune. Pour Jérémy Ouedraogo, le directeur sportif des étalons du vélo, c'est le mauvais état de la route qui n'a pas permis à ses poulains de remporter la course du jour. Il s'exprime au micro de Joël Vadem.
Aujourd'hui encore, l'état de la route, c'était catastrophique. Presque tout le monde a eu des crevaisons. Il y a eu des chutes. L'état de la route n'a pas permis à ce qu'on fasse quelque chose parce qu'à la dernière minute, on avait quelques éléments qui avaient des soucis toujours. Mais on a fait avec. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de chutes graves. Donc, ça nous a empêché de répondre présent pour cette étape. Mais on espère que demain, on pourra faire mieux. Le bilan, je dirais qu'elle est plutôt positive. On a deux dans les top 5, c'est pas mal pour nous. Au Burkina, il n'y a pas de côte, on n'a pas de grimpeurs. C'est une équipe qui est en reconstruction. Ça commence bien déjà, parce qu'on a quelques-uns qui montrent pas mal sur les côtes. On pense qu'à l'avenir, il faudra défendre vaillamment les couleurs nationales.
Des propos recueillis par Joël Vadem. Le continent africain présent à VivaTech, le salon mondial dédié aux nouvelles technologies qui a ouvert ses portes ce mercredi à Paris. Le numérique, c'est une priorité du gouvernement ivoirien en tout cas. C'est ce qu'estime Khalil Konaté, le ministre de la transition numérique et de la digitalisation du pays qui était présent au salon. Alors que son pays veut se positionner comme le carrefour numérique d'Afrique de l'Ouest, Khalil Konaté est venu annoncer la création d'un autre forum, l'Ivoirtech. Écoutez.
Le numérique, c'est l'avenir. Le 9, 10 et 11 juillet, nous accueillons l'ensemble des pays africains, mais aussi et surtout les pays européens, les pays américains et de l'Asie. Nous répétons le modèle de VivaTech à Abidjan pour mettre nos start-up en capacité de discuter et de nouer des relations d'affaires.
Et de trouver des financements, de trouver des investissements parce que les pays d'Afrique de l'Ouest et notamment la Côte d'Ivoire sont toujours en retard par rapport à certains autres pays africains. Puis il y a très peu de licornes alors qu'on en voit au Nigeria, alors qu'on en voit au Kenya, en Égypte.
Oui, effectivement, on peut penser que cette tendance la continue, mais aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de s'inverser. Vous savez, il y a 5 ans, on n'avait même pas une quinzaine, une vingtaine de start-up en Côte d'Ivoire, numérique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez plus de 300 start-up qui se sont, et ce chiffre-là va croître.
Des propos recueillis par Alexis Bédu. De la deuxième partie d'Afrique Soir qui commence et on va d'abord faire un petit rappel des titres internationaux de la journée avec Diane Berger.
Oui, le bilan est désormais de 260 morts en Inde après le crash d'un avion juste après son décollage. Il devait relier la ville d'Ahmedabad à l'aéroport de Londres. L'engin s'est écrasé juste après son décollage tout à l'heure en plein quartier résidentiel. La crainte d'une escalade autour du nucléaire iranien. Donald Trump maintient qu'un accord s'apprêterait à être trouvé sur ce sujet. Le président américain demande donc à son allié israélien de ne pas frapper l'Iran. Téhéran a annoncé de son côté un peu plus tôt la construction d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium. Des dizaines de militants arrêtés au Caire ce jeudi alors qu'ils participaient à une grande marche internationale en direction de Gaza pour alerter sur la situation dans l'enclave palestinienne. Et puis en France, une minute de silence observée dans les écoles ce jeudi après la mort d'une surveillante tuée par un collégien mardi. Le jeune vient quant à lui d'être mis en examen pour meurtre. En temps universel, l'heure du reportage Afrique qui nous emmène aujourd'hui au Sénégal.
Et oui Diane, il faut dire qu'avec plus de 700 km de côte, le pays est largement tourné vers la mer, plus qu'un paysage ou une ressource dont on peut vivre. La mer, c'est aussi un objet de croyance et une source de foi. C'est le reportage de notre correspondante Léa Lisa Westerhoff.
De l'eau jusqu'aux cuisses, brosse et savon à la main, Mustapha lave soigneusement un mouton dans l'eau turquoise de l'océan. Un rituel, tout ce qu'il y a de plus banal pour ce pêcheur de 23 ans.
On est en train de préparer la Tabaski quoi, la fête du Tabaski. Oui, on lave les moutons pour demain. La mer, ça a la prothèse, ouais, avec les bactéries et tout.
Mustapha, qui est né et a grandi dans le village de Ngor, a toujours eu la plage pour jardin, la mer pour horizon, l'océan systématiquement là pour accompagner les grandes fêtes.
C'est une forme de tradition, parce que nous, depuis qu'on est tout petit, notre père et notre grand-père, ils sont en train de laver ici, quoi, sur la mer. C'est pour cela que nous, on fait ça, quoi. Des fois, on s'est dit, concentré. Après, on va le mettre sur la mer, quoi.
Pourquoi ?
C'est pour notre grand-père.
Les ancêtres ?
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est la traditionnelle, quoi.
Laver les moutons, verser du lait ou sacrifier un animal dans la mer pour demander la bénédiction de l'océan. Entité sacrée, source de vie et de subsistance pour la communauté Lébou qui peuple les côtes sénégalaises. C'est aussi ce qui explique que la confrérie soufie des Layennes, tournée vers les flots, est née ici, sur la péninsule où se trouve Dakar.
Même en prière, on vous dit, et des fois, si vous êtes en prière quelque part et que vous avez la mer devant vous, tournez-vous vers la mer. C'est l'origine de tout.
Sérignabo est le conservateur d'un des sites où les Layennes viennent se recueillir, une grotte, véritable fente dans la falaise ouverte sur l'océan et dans laquelle on peut descendre.
La grotte fait face à la mer. Le puits où on s'altère se trouve au bord de la mer.
Il confirme ce lien spirituel fort entre le fondateur de la confrérie, Sedine Ali Mamoulaye, et la mer.
L'océan est indéniablement un compagnon de notre communauté. Il est né dans un village qui est complètement entouré de l'océan Atlantique. Donc au nord, à l'ouest et au sud. Et il fait partie d'un peuple qu'on appelle le peuple Lébou. Les Lébou, on les appelle les gens de la mer, parce que leur tout, c'est la mer. À part les champs à cultiver, la mer occupe 60 ou 70% de leurs besoins.
Aujourd'hui, les fidèles Layennes continuent de croire et d'espérer que leur mausolée et leur lieu saint, qui bordent l'océan, sont protégés de la montée des eaux, du fait de ce lien très fort qui existe entre leur spiritualité et la mer. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et place à la musique à présent avec Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, en direct de Libreville pour son Afroclub. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sophie, j'espère que toute l'équipe est au petit soin avec vous.
Mais ils sont adorables, merci beaucoup, comme d'habitude. Alors, on va plonger dans votre sélection du jour, et c'est au Gabon justement que nous commençons avec le groupe African Legend.
Oui, African Legend remet au goût du jour le style Ikoku, qui est un rite traditionnel du sud du Gabon. Le groupe composé de Tsakidi et Kasmini vient de mettre en ligne Terminus, un nouveau single au refrain répétitif et entêtant, en attendant la sortie de leur tout premier album studio.
Sans escale à présent, direction le Nigeria avec le chanteur Rick Hassani.
Oui, le natif de Port Harcourt, Rick Hassani, est de retour avec son style soul, afro-pop et R&B. Sa nouvelle chanson Moving Train Isokuso, en parenthèse, donc, est sortie le 30 mai et c'est le premier extrait de son prochain album intitulé Lagos Loverboy, dont la sortie est prévue pour demain, le 13 juin. Et oui, on ne peut pas faire plus actuel que ça.
They wanna say love is a losing game. Still I'm on a moving train to you. They can say what they wanna say. I don't send them anyway. Still I'm on a moving train to you. Isoku so, ele no lo nene, call on me, I'll be there. Isoku so, isoku so. Anytime you need me, I'll be there.
Après la douceur de Rick Hassani, on reste dans le thème avec, pour la séquence rétro du jeudi, cette fois Hervé, vous nous avez choisi un chanteur congolais à l'honneur, Lokua Kanza, et son titre Mutoto, sorti en 1993.
Oui, c'est ça, 93, année où vous n'étiez même pas né, j'ai vérifié, Sophie.
C'est vrai.
Lokua Kanza avait sorti son premier album éponyme chez Universal. Mutoto est l'un des titres phares qui permettra à Lokua Kanza d'être largement diffusé à travers le monde et de forger sa réputation sur la scène internationale. Mutoto est un exemple parfait du style doux et apaisant de Lokua Kanza avec une mélodie très spirituelle et tendre qui caractérise son œuvre.
Usiku inafika, mtota mami na pashulale, dunia ni maneno, mtota mami na pashulale.
Mtoto wa mama, usiku inakuya, muzika weyo.
Usiku inafika,
lala we.
Tota mami na pashulale,
tota mama we.
Tuniani maneno, tota mami na pashulale.
Papa.
Un très beau souvenir de Lokua Kanza. Et c'est déjà le moment de conclure votre sélection, mon cher Hervé. On reste au Congo avec cette fois la chanteuse Joyce Kaggé et sa chanson « Obufumu ».
Oui, Joyce Kaggé est aussi une grande voix de la RDC. La chanteuse originaire de Burigny, dans la province du Sud Kivu, s'est fait connaître en 2022 avec son album « L'air est vrai », toujours disponible dans les bacs. Elle continue de s'imposer sur la scène kinoise et internationale grâce à la chanson « Obufumu » en duo avec Jean Goubald Kalala, un autre grand nom de la musique congolaise. Obufumu est un titre chanté en plusieurs langues, dans le Mashi, que l'on parle dans l'est de la RDC. Et vous savez quoi, Sophie ? Obufumu signifie l'amour en Mashi, et on ne s'en prive donc pas.
Avec Joyce Kaggé qu'on referme les portes de l'Afro Club, mon cher Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, une émission qu'on peut réécouter sur l'application RFI Pure Radio.
Et aussi sur RFI.fr, l'Afro Club revient déjà lundi sur RFI Musique. Et d'ici là, nos auditeurs seront bien informés avec vous, Sophie Pouzrat et bien sûr Diane Berger.
L'édition d'Afrique Soir, qu'on termine en musique, ça fait plaisir. Merci beaucoup Sophie Pouzrat. Sophie, on vous retrouvera dans une demi-heure pour le prochain journal d'actualité africaine. Dans quelques instants, je vais passer le relais à Guillaume Ouattara. Dans une dizaine de minutes, ce sera l'heure de son décryptage, dédié ce soir aux questions de l'intelligence artificielle. Peut-on se passer de l'IA à un vaste programme? J'ai pour ma part assez hâte d'écouter parce que je me pose des questions sur notre dépendance à ces outils. Et puis vous retrouverez aussi dans une quarantaine de minutes le grand reportage de ce jeudi sur RFI. On vous emmènera au Tuvalu, cet archipel du Pacifique menacé par la montée des eaux. Cet archipel où l'on compte déjà les années avant que le territoire ne disparaisse. Merci beaucoup d'écouter RFI. Vous pouvez retrouver toutes nos informations, nos programmes, nos reportages, nos analyses, tout cela sur l'application RFI Pure Radio et puis aussi sur notre site, bien évidemment, www.rfi.fr. Merci beaucoup d'écouter la radio du monde.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Comment raconter les océans ? À l'occasion de la conférence de l'ONU à Nice, comment parler du vivant si fragile ? Comment décrypter les enjeux scientifiques, économiques et politiques de cette conférence ? Nous en parlons avec Caroline Lachowski et Simon Rosé.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça ? Avec Juliette Rangeval. Tous les vendredis à 19h41 et en podcast sur RFI.fr. L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement. L'information quand vous voulez.
Cool, cool, cool.
Tout à l'heure sur RFI.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Ce jeudi, l'icône Craig David fait ses couleurs tropicales.
Craig David nous présentera Commitment, son nouvel album dont la sortie est prévue en juillet. Craig David sera face à la team Couleur Tropicale. Ce jeudi, Craig David sur RFI, c'est l'événement. Ça fait 10 fois que je dis Craig David, je pense que tout le monde est au courant. Craig David, Craig David, Craig David, Craig
Couleur
David,
Tropicale. Craig David.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI. Craig David.
Priorité santé.
Raphaël Constant vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Comme chaque vendredi, une émission de santé au féminin. Comment lutter contre la sédentarité? Quelle activité physique choisir selon sa condition physique?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Nous sommes le 13 novembre 1974. Yasser Arafat est invité pour la première fois à la tribune de l'ONU. Le chef de l'OLP prononce un discours historique et fait basculer l'opinion publique internationale en faveur de la reconnaissance de la cause palestinienne.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.